Merci, Madame la Présidente, chers collègues, chers délégués, je suis heureux d'être ici. Ce ne sont pas seulement des mots, si c'est une occasion essentielle de réfléchir à nos actions, d'être reconnaissant et de continuer à respecter les principes de la Charte. Pour ma part, faire ce travail, ce n'est pas seulement un emploi, c'est une mission pour faire la lumière dans des zones d'ombre et améliorer la vie des personnes derrière les barreaux. À présent, pour les procédures d'établissement de rapport, les rapports, c'est d'abord un processus constructif de dialogue, en sachant que ces procédures nécessitent des engagements substantiels, y compris des ressources financières. C'est aussi une bonne occasion pour nous de prendre des mesures pour harmoniser les lois et les politiques, pour identifier les difficultés et les lacunes, y compris dans le processus de mise en œuvre, mais aussi de suivre le progrès et les résultats dans certains domaines dans la Convention.
Also gives an excellent opportunity to
Ce processus nous donne aussi une très bonne occasion d'examiner le système en place pour la collecte de données dans les domaines couverts par la Convention, comme par exemple les plaintes, les enquêtes, les poursuites, les sentences pour les tortures et mauvais traitements, les décès en détention, les questions liées à la migration, le refoulement, la protection des personnes demandeuses d'asile, des réfugiés, des mesures, des actions qui visent à traiter la compensation pour les victimes et les personnes survivantes, mais aussi les activités de renforcement des capacités de formation pour différents groupes ciblés, comme par exemple les prisons, les juges, les procureurs, les avocats, les journalistes, les ONG, le milieu universitaire et d'autres parties prenantes pertinentes. Bien sûr, une partie centrale du processus d'examen, ce sont les remarques de conclusion du comité qui nous oriente clairement sur la façon de mieux mettre en œuvre les dispositions de la Convention. Elles sont formulées afin d'assister les États le mieux possible et nous essayons d'être les plus spécifiques possibles. Nous sommes parfois très techniques et assez spécifiques dans nos recommandations aux États, mais d'autre part, nous sommes bien conscients du fait que les moyens de mise en œuvre restent entre les mains des États parties. Pour utiliser au mieux les recommandations fournies par le Comité contre la torture, il peut être très utile pour les États d'avoir un mécanisme national pour la mise en œuvre des rapports et des mesures de suivi. Au cours du processus de suivi, comme vous le savez peut-être, le Comité demande aussi aux États de nous tenir au courant de suivi détaillé sur trois ou quatre recommandations, y compris dans les conclusions, dans une période d'un an. C'est une période standard selon nos procédures. Pour certaines recommandations, toutes les recommandations restantes, donc simplement donner des détails sur les plans visant à mettre en œuvre ces recommandations. Ceci permet d'avoir des indicateurs clés, des jalons temporels très clairs avec une bonne division des responsabilités, avec des objectifs et des stratégies claires. À présent, ce qui concerne notre organe associé, le SPT, les visites, ceci sont l'occasion de déployer des experts de l'ONU sur le terrain, dans les pays, ce que le Comité contre la torture, en dehors de ces enquêtes, peut régulièrement faire. Le SPT donne aussi apporte aussi beaucoup d'assistance à ta partie pour assurer le fonctionnement de leur mécanisme national de prévention, comme le comité contre la torture, le SPT, propose des rapports et des recommandations au CETA Parti pour leur mise en œuvre. Mais au contraire de notre comité, ces rapports restent confidentiels, à moins que la partie ne décide de les publier. En outre, il faut souligner aujourd'hui que ce n'est que grâce aux visites du SPT dans les différents lieux de détention que de nouvelles questions relatives aux violations des droits humains peuvent apparaître et être traité par notre comité, comme par exemple la violence et le mauvais traitement dans les institutions sociales ou psychiatriques, dans les unités de détention militaire, dans d'autres infrastructures, y compris les centres pour personnes âgées, les centres de soins sociaux. Et donc pour ces groupes vulnérables, c'est une occasion unique de se faire entendre au niveau national, mais aussi au niveau international. Pour conclure, j'aimerais dire que pour améliorer la situation dans les lieux de détention, il n'est pas suffisant de connaître la réalité derrière les barreaux. Il est crucial d'avoir une expertise externe pertinente et de savoir comment assurer la prévention et poursuivre et punir les auteurs des violations et travailler avec les membres des familles. L'impact du travail du comité peut être global, mais aussi individuel. À chaque fois que l'on arrive au niveau les plus fondamentaux, c'est une question de justice pour les victimes et leurs familles. Dans cette salle, nous savons tous et toutes que tant que l'impunité règnera, la torture subsistera. Et on n'a pas besoin de normes supplémentaires pour combattre la torture. Ce qui est urgent, c'est de mettre en œuvre les normes existantes. Alors que nous célébrons cette très grande occasion, réfléchissons au chemin que nous avons parcouru, mais réengageons-nous aussi envers le voyage qui nous attend. Merci à toutes celles et à tous ceux qui luttent pour les droits des victimes. Merci pour votre dévouement vers cette cause très noble et envers